Alors d'abord, juste une précision. Plusieurs m'ont demandé les références que je vous ai données du Man Wu. Alors j'ai cité, bien sûr, on est parti de Exode 16, 14, 15, c'était notre quatrième célébration. Et j'ai cité Nombre, chapitre 11, versets 4 à 8, Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 5, et Livre de la Sagesse, chapitre 16, versets 20 et 21. Et juste pour se mettre dans l'ambiance, le Livre de la Sagesse fait partie de ces livres qui n'ont pas la même tradition confessionnelle. Donc, il est possible que, suivant la Bible que vous avez sous les yeux, vous ne trouviez pas le Livre de la Sagesse, pas plus que le livre de Ben Sirac. Alors, Ben Sirac, ça me rappelle une expérience personnelle. J'ai eu la joie, comme étudiant, vous savez, je ne connaissais rien, j'étais étudiant en archéologie, de participer à une campagne de fouilles à Massada, sous la direction de Yigael Yadin. Et nous avons fouillé à Massada, un endroit qu'on a très vite appelé la synagogue, parce que dans le dessous de ce que nous fouillons, qui était plein de pierres brûlées, de poutres brûlées, etc., qui correspondait à la destruction de Massada, sous le sol, on a trouvé des rouleaux de textes bibliques. Et c'est une vieille tradition dans le judaïsme qui se prolonge encore aujourd'hui. Ça a été le cas en 1943 en Pologne, à Varsovie, quand une communauté juive doit quitter sa synagogue parce qu'elle est attaquée, agressée, etc. On enterre les rouleaux pour que les rouleaux de la parole de Dieu ne tombent pas entre des mains impies. Et donc, Yadin nous racontait le soir qu'il était tout heureux d'avoir trouvé des rouleaux, et il y en a un qui était un peu plus religieux que les autres étudiants. Nous étions tous très impertinents comme étudiants, vous pensez bien. Un qui lui dit: mais t'as pas le droit de les toucher, si c'est des rouleaux de la Torah, il faut appeler un rabbin. Yadin n'attendait que ça, et il a fait venir un copain rabbin. À la tête du rabbin et à la façon dont il tenait son chapeau de biais, comme ça, on se dit, c'est plutôt un libéral, avec celui-là, on va s'entendre. Et donc, il a trouvé un texte, et tout d'un coup, il dit, mais c'est pas possible. Il s'arrête, et on lui demande pourquoi. Et il dit, mais ce texte n'a jamais été écrit en hébreu. On lui dit, c'est-à-dire, il dit, mais oui, c'est un texte que nous connaissons, mais dans la tradition grecque, et qui s'appelle Ben Sirac. Or, regardez dans vos Bibles, sous Ben Sirac, il y a une introduction. Et dans cette introduction, qui est donc canonique, ou c'est tout le livre qui est canonique, ou il n'est pas du tout. Mais ce livre est donc canonique et reçu dans la liste au moins des deutérocanoniques. Il est dit que, je cite, mon grand-père Jésus, donc ce n'est pas Jésus qu'on connaît, hein, mais Yehoshua, il y en a eu des tas, mon grand-père, ayant repéré que ceux du dehors étaient intéressés par nos écritures, en a fait un résumé que j'ai découvert dans la synagogue, toujours, c'est l'auteur qui nous parle, et que je me suis empressé de traduire. Mais j'avertis mon lecteur, et chaque fois que je lis ça, ça me fait du bien en tant que traducteur de la Bible, j'avertis mon lecteur que les choses écrites en hébreu ne sont pas faciles à être traduites en grec. Eh bien, heureusement, parce qu'on en a fait des bêtises entre le texte massorétique en hebreu et le texte de la Septante en grec. Et il s'appelle Ben Sirac. Autrement dit, nous avons une tradition juive, mais qui parle grec, qui nous vient de cette époque, justement, où on a trouvé nécessaire de traduire dans la langue vernaculaire. In lingua vulgata, dira Jérôme. Dans la langue vernaculaire, c'est in poetic, dira Luther. Mais ils sont géniaux, tous ces gens-là. Ils nous ont permis tout d'un coup de nous approprier, avec tous les défauts qui sont les siens et tous les défauts qui sont les miens. Donc j'espère bien que vous n'allez pas rentrer chez vous en vous disant « Livio, c'est la nouvelle à suivre ». Non, non. Mais ils sont géniaux parce qu'ils ont essayé de transcrire dans la culture de leur temps quelque chose qui vient d'une culture antérieure. Donc vous comprenez le délice avec lequel je lis le livre de la sagesse, chapitre 16, versets 20 et 21, la substance que tu donnais, toi Dieu, que tu donnais, manifestait ta douceur pour tes enfants, nous, les enfants, car la substance se pliait au désir de celui qui la consommait, elle se modifiait au gré de chacun. C'est merveilleux. Quel que soit ce que vous avez mangé tout à l'heure, j'espère que ça s'est plié au goût de chacun.
C'est bien ma salle.
Sagesse. Donc, sagesse au chapitre 20, versets 21 et suivant.
Oui, dans les rouleaux, vous avez trouvé, ça se trouvait où? À Masada.
Oui, ça c'est Ben Sirac.
Oui.
Et aujourd'hui, je suis obligé de rigoler parce que mes professeurs, quand j'ai commencé mes études de Bible, me disaient le prologue de Ben Sirac, vous savez, c'est pour faire passer la sauce. Le texte n'a jamais été écrit en hébreu, il a été écrit en grec, mais pour qu'on accepte qu'il soit de Dieu, alors on a mis un prologue. Mais vous connaissez la petite histoire de la tradition grecque. Pour être sûr que c'est Dieu qui a inspiré la tradition que l'on appelle des Septante, pour une fois que les Français sont obligés de parler suisse, hein, c'est bien. Donc, pour la tradition des Septante, on raconte que pendant 70 jours, 70 sages ont traduit chacun dans sa petite maison l'ensemble de la Bible, et après ils l'ont partagé, et au miracle, c'était 70 fois le même texte. C'est superbe. Avec ça, vous êtes sûr que ça vient de Dieu. Mais c'est la tradition, et c'est pour cela qu'aujourd'hui encore, on appelle cette traduction de la Septante ou Septuaginta, et elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de nous rendre compte comment dans le grec que parlaient les Juifs les deux siècles avant Jésus et à l'époque de Jésus, comment les Juifs qui parlaient grec ont dit certaines choses. Et ça nous permet de remonter un tout petit peu à ce qu'on pourrait imaginer de la langue de Jésus. Dieu merci, nous avons deux, trois petites annotation dans l'évangile qui transcrit tel qu'ils l'ont entendu les mots araméens de Jésus, dont par exemple Talita Koum, ça veut dire gamine, manie-toi, allez, bouge un peu, c'est allez, allez, Talita Koum, c'est délicieux. Je vois Jésus dire ça à la gamine en question, surtout que la gamine en question, elle passe pour morte. Alors, je vois bien Jésus devant une morte, lui dit « Hé, gamine, debout, manie-toi. » C'est délicieux. Donnez-lui toute sa saveur. Parce que, donc, Damas ne s'est pas toujours appelé Damas. Damas s'est d'abord appelé Aram. Et qu'est-ce qu'on parlait comme langue à Damas? Bah, la ramée. Ok. Alors, vous en connaissez un dans le deuxième livre des rois. Il est devenu célèbre. Maintenant, avant de lire le texte, ou de vous le raconter, parce qu'on ne va pas passer trop de temps là-dessus, j'aimerais vous poser une question que je vous reposerai après avoir terminé mon histoire. Qui fait quoi et qui est-ce qui obtient de la réussite dans mon histoire? L'histoire commence par un général en chef, général en chef de l'armée des Araméens, qui vient dans le nord du pays, que nous appelons aujourd'hui Galilée, mais qui ne s'appelait pas encore la Galilée. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ, et il massacre à peu près tout. Et comme le font un certain nombre de voyageurs aujourd'hui, en passant au free shop, ils prennent un souvenir pour madame. En l'occurrence, le chef de l'armée d'Aram va kidnapper une petite fille qu'il offre à sa femme en rentrant. J'ai oublié de vous dire, mais il ne fallait pas que je le dise avant, que ce général en chef, il est lépreux. Et donc, une fois qu'il a offert à sa femme comme souvenir, après être rentré à la maison, une petite fille qui sert de servante, la petite fille dit à madame, « Mais si ton mari, Naaman, il s'appelle Naaman, si ton mari allait voir le prophète de chez moi, c'est sûr qu'il pourrait guérir. » Puis maintenant, écoutez bien. La femme dit quoi ? Je vais dire ça à mon mari. Et le mari dit quoi ? Vous n'avez rien d'autre à raconter entre bonnes femmes comme ça que des bêtises ? Non. Il dit, c'est vrai ? Je vais aller dire ça au roi. Alors il va dire ça au roi, et le roi lui dit quoi ? Eh oh, mais tu déconnes, ça va pas, non ? Non, le roi lui dit, très bien. En plus, je te donne des souvenirs que tu apporteras au roi d'Israël pour qu'il te désigne où se trouve le Élie en question. Et donc, il part et il arrive. Et le prophète lui dit quoi ? Le prophète lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Heureusement qu'il ne lui a pas dit ça aujourd'hui, parce que le Jourdain est tellement boueux que moi j'y mettrais, mais pas le doigt, hein. Mais enfin c'est autre chose. Et le général en chef dit quoi ? Vous racontez des bêtises, mais jamais j'irai me laver dans... Et les serviteurs d'Élisée lui disent, si t'avais demandé de faire quelque chose de très très difficile, toi le général en chef, tu l'aurais fait, n'est-ce pas ? Alors pourquoi tu ne vas pas ? Et c'est à ce moment-là que Naaman va se baigner dans le Jourdain et qu'il est guéri de sa lèpre. Je reviens à ma question. Qui est-ce qui est responsable que ça marche ? C'est bizarre que personne d'entre vous a dit Dieu. Mais vous avez raison. L'histoire n'est pas racontée pour que nous sachions que Dieu peut faire des miracles. L'histoire, c'est que la madame de Naaman... que Naaman, que le roi, que les serviteurs de Naaman marchent tous parce qu'une gamine, l'esclave de la femme de Naaman, a dit « S'il allait voir le prophète de chez nous, c'est sûr qu'il guérirait. » Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Parce que tous les catéchistes de l'époque racontaient ça. Et Jésus, gamin à Nazareth, a eu une catéchiste qui lui a raconté cela. Et quand, quelques années plus tard, il est dans la synagogue, chapitre 4 de l'évangile de Luc, il est dans la synagogue de Nazareth, il dit aux gens de Nazareth, il y avait beaucoup de lépreux dans le pays à l'époque du prophète Élisée. Pas un n'a été guéri, si ce n'est Naaman, le chef des ennemis. Vous vous rendez compte, il ne se fait pas de la pub, hein, Jésus, en disant des choses comme ça. Voilà. On racontait cette histoire parce qu'on la racontait déjà en araméen. mais elle est au chapitre 5 du deuxième livre des Rois en hébreu. Et c'est depuis cette époque qu'on parle araméen, c'est-à-dire un des dialectes, et qu'on ne parle plus, mais on lit encore et on chante les psaumes encore en hébreu. Voilà, petit détour par Naaman le Syrien.
Est-ce que l'araméen est un dialecte? Est-ce qu'on peut considérer l'araméen comme un dialecte?
Oui.
L'araméen précède l'hébreu.
Alors là-dessus, on se bat, mais moi, je n'ai pas envie d'entrer dans le débat. Certains disent non, c'est une langue à part entière. Faites la comparaison avec la langue d'oc et la langue d'oïl. Il y a un moment donné où c'est devenu la langue qui ne s'est du reste jamais imposée partout. Même en France, on ne parle pas tous. Il y a des dialectes qui sont un peu différents. En Suisse, on connaît le phénomène avec l'allemand et dans d'autres régions aussi. Donc, pour moi, c'est une famille de langues sémitiques dont l'hébreu, qui a donné notre hébreu écrit, et l'araméen, qui était la langue que parlait Jésus, qui a donné, par exemple, la langue du prophète Daniel, qui est écrit en araméen. Mais l'araméen n'a pas d'écriture propre. Donc, l'araméen emprunte à l'hébreu son écriture, mais pas sa prononciation. Mais je ne veux pas trop compliquer. Voilà, je voulais juste terminer donc cette quatrième célébration. Celui qui en avait pris beaucoup n'en avait pas trop. Celui qui en avait peu, il n'en manquait pas. Chacun avait recueilli selon ses besoins. C'est merveilleux. C'est aussi une très bonne leçon à nous qui voulons nous surassurer.